À la une de ce journal, tous les enjeux de la région peuvent être résolus à condition que les interventions des puissances transrégionales cessent, réitère le président iranien. Les développements positifs des pourparlers de Vienne ne suffisent pas à répondre aux attentes de l'Iran, déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Et puis, 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition au Yémen, selon l'UNICEF. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a souligné une fois de plus que tous les problèmes et enjeux de la région peuvent être résolus à condition que les interventions des puissances transrégionales cessent. Le président iranien et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi ont discuté samedi de questions bilatérales et régionales lors d'un appel téléphonique. Au cours de la conversation, les deux hauts responsables ont mis l'accent sur l'élargissement de la coopération et de la coordination entre les deux pays voisins dans divers domaines. Raisi a ajouté que l'Iran a toujours insisté sur un gouvernement fort et cohésif ainsi que sur une société unie en Irak. Le président a également souligné l'expérience réussie de l'Iran et de l'Irak dans la campagne conjointe contre Daesh et d'autres groupes takfiristes, affirmant qu'une telle expérience pourrait servir à renforcer la sécurité et la stabilité régionale. M. Raisi a déclaré que tous les problèmes de la région peuvent être résolus à condition que les interventions des puissances transrégionales cessent. Les problèmes de la région sont le résultat de l'extravagance des Américains et s'ils sont vraiment expulsés de la région, nous verrons que les pays de la région eux-mêmes peuvent pleinement établir la paix, la stabilité et la sécurité en travaillant ensemble, a-t-il affirmé. Raisi a salué les efforts du gouvernement irakien pour accueillir des pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite et a noté « La République islamique d'Iran est prête à poursuivre ses pourparlers jusqu'à ce qu'un résultat soit obtenu, à condition que les Saoudiens soient disposés à poursuivre les pourparlers dans une atmosphère de compréhension et de respect mutuel. » Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, lors d'un entretien téléphonique avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères Josep Borrell, a déclaré samedi soir que l'Iran était sérieusement favorable à un bon accord tout en réitérant que les développements positifs dans les négociations de Vienne ne sont pas tout à fait satisfaisants. Toutes les parties devraient avoir défini des plans de travail conformes à la conclusion d'un accord de Vienne et prêtes à adopter des décisions politiques, a déclaré Amir Abdollahian, soulignant que les négociations ont maintenant atteint un point sensible. L'autre haut diplomate iranien, quant à lui, a précisé les efforts de Borrell ainsi que son adjoint Henrik Mora et les contributions de l'Union européenne visant à coordonner les négociations. Il a dit que par rapport au cycle de pourparlers précédent, certains développements positifs se sont produits au cours des négociations, mais ils ne sont toujours pas tout à fait satisfaisants pour nous. Nous sommes sérieusement et clairement parvenus à un bon accord, mais tout aussi résolument et clairement en sauvegardant nos lignes rouges, nos intérêts internationaux et nationaux, a-t-il encore souligné. Le haut diplomate iranien a regretté que le PGAC n'ait apporté aucun avantage économique à l'Iran au cours des dernières années. Nous ne parviendrons à un accord que s'il nous apporte des avantages économiques durables et fiables, a-t-il déclaré. L'Iran est en contact étroit et continu avec l'Union européenne alors qu'il coordonne les négociations du PGAC, a déclaré le ministre. Le haut responsable de la sécurité iranienne, Ali Shamkhani, a conditionné la conclusion d'un accord lors des pourparlers de Vienne aux avantages économiques réels, effectifs et vérifiables. Des avantages économiques réels, effectifs et vérifiables pour l'Iran sont une condition nécessaire pour parvenir à un accord de Vienne. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a écrit sur son compte Twitter en réaction au rétablissement des dérogations aux sanctions à certains pays coopérant avec l'Iran par les États-Unis. Il a estimé que bien que des progrès limités aient été réalisés dans les négociations, il est essentiel de trouver un équilibre dans les engagements des parties concernées. Il a déclaré que les décisions politiques à la Maison-Blanche pourraient être un premier pas pour parvenir à un équilibre ainsi qu'à un bon accord. Par ailleurs, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a réagi à la décision des États-Unis de rétablir les dérogations aux sanctions, affirmant que la décision de Washington n'était pas suffisante. Khatibzadeh a déclaré que naturellement, la République islamique d'Iran attend que les États-Unis remplissent leurs devoirs et obligations en ce qui concerne la levée des sanctions. Un million d'Afghans récemment immigrés en Iran cherchent à atteindre l'Europe. Selon des rapports officiels, plus d'un million d'Afghans ont migré vers l'Iran à travers la frontière occidentale de l'Afghanistan au cours des 6 derniers mois, cherchant majoritairement à atteindre la Turquie et le sol européen. Le chef de l'industrie des transports privés afghans a déclaré qu'environ 4 000 Afghans migrent chaque jour vers l'Iran, ajoutant « Ces personnes quittent l'Afghanistan pour l'Iran et le Pakistan en raison de la pauvreté, du chômage et du manque d'opportunités d'emploi et d'éducation ». Chaque jour, entre 3 500 et 4 000 personnes voyagent de Kaboul vers les provinces de Kandahar, Nimrouz et Herat, a déclaré Ismail Javanmard, chef de la société de transport privé afghane. Présence de 9 artistes étrangers au 37e Festival de musique Fajr. Le secrétaire de la section internationale du 37e édition du Festival de musique de Fajr a fait part de la présence de 9 artistes étrangers dans cette section. Selon l'IRNA, la 37e édition du Festival de musique de Fajr en Iran accueillera 9 artistes étrangers. Un pianiste néerlandais, un groupe d'Égypte et d'Italie participeront au Festival de musique. Au total, 9 artistes étrangers sont invités au festival, a annoncé le secrétaire de la section internationale de l'événement culturel. Enfin, un siège paralysant du Yémen fait payer un lourd tribut aux civils et les enfants semblent en faire les frais. Les autorités avertissent que le blocus saoudien a mis plus de 3 000 enfants atteints de cancer en danger de mort. Le ministre de la Santé a déclaré que la médecine nucléaire ne pouvait pas être expédiée au Yémen en raison du siège en place depuis 2015. Le médicament est désespérément nécessaire pour les traitements contre le cancer. Taha al-Mutawakkil demande une réouverture urgente de l'aéroport de Sanaa pour permettre aux patients de se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Il affirme également que l'utilisation d'armes prohibées par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a doublé le nombre de patients atteints de cancer au Yémen et que le nombre d'enfants souffrant d'un cancer du sang augmente de façon spectaculaire. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Washington a éliminé le chef du groupe Takfiro-Wahhabi Daesh en Syrie. Mais en ciblant Daesh, le Pentagone a rendu service à son rival soutenu par les États-Unis et la Turquie. Décidément, les Américains prennent leur aise en Syrie. Après avoir fourni un soutien aérien aux forces démocratiques syriennes FTS pour reprendre une prison aux Takfiristes dans la province de Hasakeh, les forces spéciales américaines ont lancé une opération d'envergure dans la province d'Idlib. Dans la nuit du 2 au 3 février, 4 hélicoptères ont transporté des opérateurs dans la ville d'Atmeh, localité à la frontière turque située dans la province d'Idlib en Syrie. Les forces spéciales ont entouré une maison où résident des 4 terroristes. Malgré les avertissements en arabe des haut-parleurs américains pour que les civils évacuent la zone d'opération, d'âpres combats ont eu lieu. Plusieurs militaires américains ont été blessés, un hélicoptère a été endommagé puis détruit par une frappe US pour éviter toute prise, 13 personnes ont été tuées, dont 6 enfants et 4 femmes. Mais pour Washington, l'essentiel était ailleurs. Hier soir, sous ma direction, les forces militaires américaines ont entrepris avec succès une opération antiterroriste. Grâce à la bravoure de nos forces armées, nous avons retiré du champ de bataille Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, le chef de Daesh, a indiqué Joe Biden sur son compte Twitter. Ce genre d'opération terrestre demeure peu fréquent. Généralement, Washington use de cette ronde MQ-9 Raptor. Ce fut le cas en décembre et en septembre dernier pour tuer des dirigeants de Ouras al-Din. En frappant Daesh, les États-Unis veulent rester dans le jeu syrien, estime Camille Najm, politologue et chercheur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, dont les travaux portent principalement sur la Syrie. En effet, la dernière opération au sol dans le pays remonte à octobre 2019, sous Donald Trump. Les soldats héliportés avaient encerclé Abu Bakr al-Baghdadi. L'ancien chef de Daesh avait alors actionné sa ceinture d'explosifs. Mais cette nouvelle action, coup de poing sur le terrain, est le fruit d'un billard à trois bandes. L'élimination du leader de Daesh n'aurait jamais eu lieu sans la coopération de la Turquie et de Hayat Tahrir al-Sham. Et ça tombe bien pour Washington. Le groupe takfiriste est dans les petits papiers de la Maison-Blanche et reçoit le soutien d'Ankara, précise Camille Najm, qui est également consultant en géopolitique du Moyen-Orient. Les Américains rendraient ainsi service à l'ancienne branche d'Al-Nosra à Idlib, qui considère Daesh comme un adversaire. Hayat Tahrir al-Sham intéresse en effet Washington. Son mouvement contrôle près de 60% de la province du nord-ouest syrien. Il représente une véritable armée de plus de 30 000 hommes, dont 10 000 étrangers provenant de Jordanie, d'Arabie saoudite et d'Asie centrale, avec une branche turkmène. Issu d'Al-Nusra, qui puise ses origines dans Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham n'est donc qu'un changement de nom opéré en 2017 pour se démarquer de l'image de sa famille terroriste.